Och Lovely. Ja.
Ja, het is 3:00 PM en dat betekent dat het tijd is voor Radio Teranga. Op woensdag.
Radio Teranga. Vitality.
Live. From.
Indirect.
From Senegal en Amsterdam.
Dakar en Amsterdam en Dakar. Ja. Nous sommes là dans l'émission de Radio Teranga. Bienvenue à tous. Ik moet even zeggen dat ik nogal verkouden ben, dus ik ga af en toe heel erg hoesten.
Ja.
Dus dan mag je de tijd invullen.
Oui.
Het onderwerp van vandaag is water.
Water,
je weet, met water kun je alle kanten op, dus dat is een heel goed thema. Wat?
Ik probeer de Frans voor water te zeggen.
Ja, oh.
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 Tout court.
Ja. De loop.
Het water. Ja, wat moesten we zijn zonder water?
Stromend water. Water is life. Ja, Mustafa heeft daar een lied over gemaakt. Dat kan ik opzoeken. En misschien kan hij het straks nog even zingen. Alleen hij ligt toch ergens, weet ik veel waar. Ik kan hem niet bereiken. Maar het goede nieuws is, ik heb net gesproken met andere mensen. En die zijn nu bezig om de geschilderde baobab, schilderij van Papa Sako, wat is geheimd, herinterpreteerd. Dat zijn ze nu aan het inpakken in PVC-pijpen, zodat het op tijd hier naartoe kan vliegen voor de herdenking. Ja.
Ja.
Het is interessant. Ja, dat komt al dichterbij.
Ja, het komt echt dichterbij.
Het is gek, maar time flies. Ja.
Ja. Nog een dag of 10.
Ja, ik had gisteren, dat is ook interessant voor Michel. Ik zal hem even een foto sturen, want we hebben nu de setup klaar voor de, zeg maar, de media department.
Ja.
Met 2 camera's en 2 microfoons en 2 laptops en 2 mixers en 2 speakers en hartstikke leuk.
Oké. Okay.
Ja. Dus technisch plan begint vorm te krijgen.
Nou goed.
Zodat we het allemaal live kunnen streamen. Dat ze het in. We kunnen het streamen via YouTube, dat vinden ze leuk. En dan kunnen we het daar, als het goed is, op een witte muur projecteren.
Nou,
ik denk dat. We moeten alleen zorgen dat ze een beamertje en een laptopje vinden.
Mm-hmm.
Ik heb een beetje hoop dat we dat via de galerie kunnen regelen. Daar ben ik heel erg vrienden mee aan het worden. Dus. Want Mustafa zegt dat je dat moet huren. Ja, ik vind huren echt een tweede keuze. Ik vind. Teranga, bolle boy dolle, dat betekent dat je alles deelt en samenwerkt. Dus ik ben niet zo. Ik probeer weg te blijven van de commercie de hele tijd. Maar leg dat maar eens uit, weet je wel.
Ja.
Dat is best moeilijk. Ja.
Echt wel.
Maar goed, dat is wel weer spannend ook. Dat is het experiment van deze uitwisseling.
Ja, te gek, man.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Ik hoorde een uitzending van PSJM. En dat ging over het komend weekend.
Ja.
Ik heb zo het idee dat jullie je zorgen maken over die demonstratie van de fascisten op de Dam.
Ja.
Ja, waarom precies?
Ja, een beetje hetzelfde gevoel als toen de English Defence Force kwam jaren geleden.
Ja.
Dat je denkt van een zootje hooligans komt hier te proberen. Ons te provoceren eigenlijk, maar ja, we willen ook zo ook heel graag de stad uitslaan. Maar begrijp wat ik bedoel? Dus het voelt een slecht voorgevoel.
Ja. Nou, ik dacht zelf, persoonlijk, als het ook weer voetbalhooligans zijn, dat is best kans op, dat het misschien een idee is om daar gewoon een paar voetballen in de meute te gooien. Dat ze gewoon iets anders gaan doen. Dat ze gewoon gaan voetballen in plaats van braken. Maar wat ook kan, is dat ik de bellenblaasmachine laat aanrukken. Gewoon als afleidingsmanoeuvre.
Of alle twee.
Of alle twee. Ik heb ook een hele grote bal. Hè? Een hele grote blauwe bal. Misschien moeten we een megabal. Die dan zo, zeg maar. Nee, dat is het.
Die op het paleis stuitert.
Bovenop het paleis staat de atlas met een wereldbol. Dat is de bal.
Ja, now you're thinking.
Die bol.
Maar die dat staat niet aan de kant van de dam.
Nee, dat is even een... Je moet de zwaartekracht een beetje helpen dan. Denk ik.
Ja.
Kortom, ik zie dat een beetje op mijn manier.
Nou, je kan die atlas natuurlijk aanstralen met een laserstraal of iets dergelijks.
Ja, daar hebben we toch de drones voor tegenwoordig. En de NATO.
Ja.
Die kunnen alles.
Ja.
Die kunnen alles.
Ja, dus je laat AI het gewoon oplossen. Dat kan ook alles. Nee, je denkt gewoon het hele handwerk wordt het.
Gewoon matten.
Nou ja, weet ik niet. Maar of dreigen. Of anders. Nee, ik denk dat het toch eigenlijk ook mediaactie. Wat gewoon heel slecht is de laatste tijd. Waardoor de overheid het voor die fascisten in de war stuurt. Dat we dat niet zelf hoeven te doen.
Ja, maar wij zijn partij, toch? Dus wij moeten wel iets doen, vind ik.
Ja, ja nou, maar dat is toch ook iets doen. Als je het kan voorkomen of kan afleiden of wegmaken. Op een andere manier dan met het gevecht. Wat eigenlijk iedereen aan de andere kant het liefst wil.
Voorkomen is beter dan vernietigen.
Ja.
Of zoiets.
Zoiets dat ze gewoon... dat kan dan wel, maar dan moet ze... zeg maar ergens... ja, in Velzen, Noord of zo... daar kunnen ze dan... wel hun demonstratie houden. Of zo. Dat ze gewoon helemaal niet hier... Nou ja, noem maar op. En of andere, in het verleden zijn er altijd zoveel dingen geweest... waarop demonstraties werden... geplaagd of verpest of niet konden doorgaan. Maar of heeft wat Femke er eigenlijk over gezegd? Ik hou me ook heel weinig bezig, te weinig met het Amsterdamse nieuws zelf.
Ja, nou, ik denk zelf dat Femke heel erg haar best gaat doen om de twee groepen te scheiden.
Ja.
Ik denk dat ze dat ook gaat doen door heel veel politie op de Dam te parkeren, want stel dat ze de Kalverstraat induiken en daar gaan rellen, dat wil ze ook niet. Dus dat gaan ze allemaal afsluiten. Ik denk dat er echt een cordon omheen komt te staan. Want ze hebben het Malieveld in gedachten. Ja. Ik weet niet of het dezelfde lui zijn. Maar het zou me niet verbazen als het dezelfde types daar ook opduiken.
Ja, precies. Dat is de verwachting.
Maar waar is onze inlichtingendienst? Want waarom weten we dit allemaal nog niet?
Wij weten het toch?
Maar Kafka?
Van Schoof.
Nee.
In hoeverre is nou Schoof... beter voorgelicht dan alle andere premiers, vraag ik me dan af.
Ja, dat denk ik ook niet. Ja,
hij is de security man. En de ritselaar.
Nou, en de integratieman. Hij heeft 100.000 Oekraïners in Nederland gehuisvest.
Ja.
Dus hij kan het.
Nee, maar... Kijk, Schoof is ten diepste gewoon een ambtenaar zonder mening. Weet je wel? Het enige wat hij heeft aan mening is begrip.
Ja.
En dat is het. Hij heeft gewoon geen idee, geen mening, geen ballen. Het is gewoon... Sjoef, sjoef. Het is gewoon helemaal niks. Dat weet toch iedereen? Hallo, vertel ik je wat nieuws?
Nee. Tegen
hulp. Nee, we zitten een beetje te mijmeren.
Ja. Ja. Het andere is nou natuurlijk wel... En daarom begin ik erover... De herdenking zou worden opgeluisterd door een enorme staking van de domestic workers. En dat zijn dus veelal vrouwen uit Filipijnen, Griekenland, Indonesië en Brazilië.
En ook
die hebben hier vaak geen papieren. Die werken gewoon in de huishouding bij een madame. Mm. En die waren van plan te gaan staken en actie te voeren, maar ze zijn toch een beetje bang. Zowel vanwege die asielwetten, maar ook nu met die fascisten. Dus ze hebben het een beetje teruggeschaald. En dat betekent dat ze wel acties gaan doen. En op 26 oktober ook meedoen. Maar niet met een hele bende mensen. Alleen met één bus gaan ze meerijden met de harde kern, zeg maar. Naar de gevangenis en naar het monument. Mm-hmm. En dan daarna in de tuin. Dus het wordt wel mooi, maar het wordt niet zo massaal als ik eventjes dacht.
Maar wel breed dat... meegeleefd in ieder geval.
Ja, het wordt wel mooi. Het wordt gewoon... Kijk, ik zie dit niet als een antifascistische actie. Maar dat is het natuurlijk wel. Ja, als je zegt.
Ja, tegen me. Ja. Ja. Dat is het.
Maar het is ook geen verkiezingspropaganda. Het is autonome kunst. Weet je wel? Dus ik ga me ook. Ik ga me niet bekreunen om fascisten of verkiezingen of partijen. Het is gewoon kunst. En het is actiekunst, het is bewegingskunst, maar het blijft kunst. Ik vind dat goed, ik vind dat belangrijk, want we moeten gewoon een ander verhaal gaan vertellen. Ja. Dus het is, ook die demonstraties, die zijn allemaal hetzelfde, die zijn saai.
Ja.
Nog los van het feit dat ik niet meer kan lopen, maar goed, dat hebben meer mensen. Maar, ja. Werd jij nou echt heel warm van die rode lijn?
Ja, het enige wat... Ja, ja. Ik heb er iemand tegengekomen die er naar heen op weg was, maar ik was er niet heen op weg. En dat is omdat ik ben tegen Hamas. ik demonstreer wel eens, maar ik dacht van ja, kom op. Ik ben al bij die kernwapens geweest in 1981. Ik ben in Den Haag geweest demonstreren toen. Ik heb best al die dingen gedaan en zo, maar kom op.
Ja. Maar het was, even voor de duidelijkheid, geen demonstratie om Hamas te ondersteunen, geloof ik.
Even voor de duidelijkheid, nee, dat klopt. Nee. Het is ook niet voor antisemitisme. Nee. Maar het is nu, want het is nu ook populair, weet je. Het is echt, als je dan denkt hoe het was op de Routerstraat, campus en dat geëtter, tot hier. Dat is toch wel, er is wel wat veranderd. Maar het is weer zo'n Nederlands, op zo'n Nederlandse manier, waar ik dan ook weer niet aan mee wil doen. Stom, hè?
Ja, zo uniform ook.
Ja, maar helemaal, al die media is al zo'n gelijkgeschakelde shit. En dan opeens moet je wel naar de rode lijn gaan. Of van die...
Ja.
Wordt opgepakt door de agenda.
Daarom is het goed dat wij er nog zijn.
Precies. Dat ze niet denken van, oh, en dan, nu is Patapoe ook overbodig geworden.
Echt niet.
Zij is zo belangrijk.
Oh. Juist nu.
Ja.
Het lijkt me duidelijk.
Wat blijven die Afrikanen nou?
Ja, goede vraag. Zijn er niet, hè? Ja, wacht eens even. Mamadou. Ja, c'est Lamine.
Hoi, c'est bien Lamine. Ça va bien.
Bonjour.
Oké.
Okay. Bonjour, bonjour, tout le monde. Radio Teranga. Salut tout le monde. Santé à tout le monde.
Ah, Lamine, Rame.
C'est quoi le
magnifique. Ah, je viens d'expliquer que tu travailles maintenant sur l'emballage du baobab, du tableau.
Oui. Effectivement. C'est ça qui m'a donné un peu de retard. Mais j'ai déjà fini. Et
okay.
Pour cela, je suis venu.
Ok, ça va bien. Ça va marcher. Ok. Ouais. On vient de discuter en hollandais. Tu n'as pas écouté, peut-être, mais on a parlé sur une. Il y a plein de manifestations en Amsterdam ce moment. Le dimanche passé, il y a 250 000 personnes dans la rue, toutes en rouge.
Uh-huh.
C'est pour dire que on a traversé la ligne rouge.
Ok.
La ligne rouge, c'est maintenant. Okay. Il faut arrêter la guerre. Il faut sanctionner Israël. Il faut sauver les enfants en Gaza. C'est le message. Mais c'est pas tout, parce que il y a aussi une mobilisation de l'extrême droite, des hooligans et des gens qui sont vraiment des fascistes, des anti-migrants, anti-islam, tout ça.
Ah oui.
Et ils ont annoncé une démonstration aussi. Le 12, c'est samedi, je crois. Oui. Et on discute comment réagir. Parce qu'il y a aussi une contre-démonstration. Au même endroit où nous allons rassembler le 26. Au statut du Dockier. Le Dockier qui est le représentant de la résistance contre les nazis. Donc c'est le point de rassemblement. De rassemblage des antifascistes. Mais je crois que j'aimerais bien faire une intervention artistique. Et je dis comme ce sont parfois ce sont des hooligans, des supporters des clubs de football. Ils aiment bien se battre. C'est passé il y a quelques semaines aussi à La Haye. Mm-hmm. C'est un grand choc et tout le monde était surpris. Mais maintenant, ce n'est pas une surprise, c'est annoncé et tout ça. On est préparé.
Mm-hmm.
Mais comme ce sont des hooligans, j'ai proposé de jeter des ballons mm-hmm. dans la manifestation,
uh-huh.
comme intervention. C'est mm-hmm. mieux de jouer que d'être fasciste, comme ça.
Uh-huh.
Mais un truc comme ça, mm-hmm. c'est joli.
Oh, ouais.
Je crois que ça va bien.
Uh-huh.
Mais en plus, sur la place centrale d'Amsterdam, le Dam, il y a aussi un palais.
Uh-huh.
Et sur le toit de cette palais, il y a uh-huh. une statue d'une Atlas.
Uh-huh.
Atlas, c'était le dieu grec qui maintenait toute la terre dans sa main. Mm-hmm. Et la terre, c'est un ballon.
Ouais.
Il porte le ballon sur son épaule,
mm-hmm.
tout en haut du palais.
Uh-huh.
Et j'aimerais bien jeter de quelque manière ce ballon dans uh-huh. la démonstration.
Mm-hmm.
C'est une idée.
Oui, c'est une idée. C'est une idée. Tu sais, j'ai pas vu la statue, hein, mais pour les ballons s'expriment mieux, il faut qu'on accroche les ballons en fil qu'on peut pas voir, tu sais, avec les petits cordes là, des fils en plastique là, qu'on fait les corras là.
Ouais.
Les petits fils là, et laisser les ballons et organiser les ballons d'une forme avec le vent, tu vas voir, ça va sauter quoi.
Ok, ok. Et alors okay, une dizaine
une bonne
de ballons
idée,
comme
c'est
ça.
Une bonne idée, ouais.
Mm-hmm.
Et les gens pour prendre des photos là-bas et les ballons aussi, il faut écrire les ballons et écrire au-dessus des ballons l'objectif.
Ok.
C'est bien de faire une marque sur l'objectif du ballon, sur les ballons. Et si tu gonfles, ça sera une gros image qu'on va... c'est une bonne idée, hein? C'est une bonne idée artistique. Tu sais, il y a les CC aussi. Et beaucoup d'artistes qui sont dans le groupe.
Mm-hmm.
Pour intervenir sur ce cas-là, mais c'est très intéressant au niveau de là. Si c'est bien posé, accroché et ça vole comme ça avec le message 2 jours, 3 jours, ça va rapporter beaucoup de choses. Hein.
Ouais, c'est possible. Ouais. Ok, d'accord. On est au courant. Et qu'est-ce qui se passe à Dakar? De nouvelles?
Bon, à Dakar, ici, il y a la pluie. Il faisait très chaud, très, très mal chaud. Mais à un certain instant, il y a la pluie qui a commencé au banlieue. Et maintenant, uh-huh. autant que je vous parle comme ça, je suis sur la pluie là, vous voyez.
Ok.
Je suis sur la pluie. Là.
Ça sent bien.
Ah oui, on a un bon temps. On a le pluie, c'est des petits gouttes qui sont formidables. Et ça diminue la chaleur et c'est abordable. On a un bon climat à l'heure actuelle.
Ok. Mais c'est presque terminé, hein, la pluie, la saison.
Oui, c'est presque terminé. Tu sais, les dernières pluies aussi, avant le temps du froid, il faut que la chaleur va augmenter, il va pleuvoir les dernières pluies, il va s'accompagner avec du vent, et soit ça sera les deux. C'est tout cela, les dernières pluies, il faut prévoir, parce que c'est des pluies qui c'est des pluies de chaleur. Ce n'est pas des pluies de d'hivernage, c'est des pluies de chaleur, de changement de climat. C'est pour cela qu'il y a tellement de vent, et la chaleur aussi, et la pluie aussi. Mais c'est les dernières pluies. C'est les conséquences du changement de climat, oui. Allô?
Allô? Yeah.
Allô, oui.
Allô.
C'est ça, oui, je vous entends.
Oui, j'attends. Mais Jordwa Dier Kelk Shows. Hoe heet die?
Hoi.
Ja. Mon français est mauvais. Oui. C'est chaud à Dakar.
Oui, à Dakar, il faisait chaud. Il faisait tellement chaud. Oui. Mais avec la pluie, là, ça va diminuer. Parce que on avait besoin un peu d'eau. Hein. Parce que tu sais, si il fait beaucoup chaud, mm-hmm. en saison des pluies, ça fait mal. Parce que vraiment, on souhaite l'eau. Et c'est ça que Dieu nous a donné un peu d'eau. Et c'est ça, et c'est pas tellement, c'était un petit vent. Maintenant, il fait des petites gouttes, tu vois. Vous voyez ici. C'est ça.
Ça pluie aussi.
Oui, on a un bon temps. Oui, il y a la pluie. Ça vient de commencer tout de suite. Hein. Ça vient de commencer.
Parce que le thème est eau aujourd'hui. L'eau.
Le thème eau. Oui. Ah oui. À la chance.
C'est Joe, il pense ça.
Bon, pour parler du thème, hein, on a un thème principal de la vie. Hein. Oui. Bah, l'eau, même, c'est le thème principal de la vie. Waouh! Sans eau,
pas de vie.
Il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'animaux, on ne peut pas manger sans eau. Et l'eau, c'est le principal du source, des principaux sources du monde que Dieu nous a offert. Mais le problème, en tant qu'humain, nous, on ne s'approprie pas de l'eau. Bon, parce qu'on doit, en matière, par exemple, en matière de la culture, on doit récupérer l'eau du puits, et soit l'eau de l'hivernage, et l'eau des robinets, et soit parce que on a suffisamment d'eau qu'on ne peut pas exploiter nous-mêmes. C'est pour cela on est trop fatigué, quoi, parce que il faut prendre l'exemple. S'il y avait beaucoup d'eau, on serait plus stable en santé, et soit en alimentation, dans toute forme de la vie, hein, parce que il faut une autosuffisance d'eau à 100% pour tout le monde, hein, même dans la maison. Hein.
Oui.
S'il y a manque d'eau, il y a problème. Oui. Même dans ton corps, s'il y a manque d'eau, il y a problème aussi. Tu sais, dans toutes les matières, tu vois l'eau de la mer, et ça amène des poissons, la mer aussi. Il y a tellement de choses sur la mer, et tout, c'est l'eau. Oui. Et l'eau dalle, on ne peut pas dire que l'eau dalle, c'est une principale source qu'on peut. À mon avis, préserver, respecter et pouvoir aussi exploiter. Parce qu'on n'a pas encore exploité l'eau d'une façon bon, industrielle et agriculture et beaucoup de domaines. Parce que nous, on consomme beaucoup d'eau dans la journée. Chaque personne doit consommer beaucoup d'eau parce que en vivant dans ton corps aussi a besoin de l'eau pour s'alimenter. Sans l'eau, comme une personne qui est dans le désert, il peut avoir tout, mais s'il manque d'eau, il y a problème.
C'est fini.
Et la vie aussi, c'est comme ça. Hein, et le corps aussi, c'est comme ça. Mais le problème humain, c'est il faut approprier, développer ce que Dieu nous a donné sur le côté de l'eau. Wow, c'est ça notre problème, parce qu'on minimise beaucoup d'eau, parce qu'on a beaucoup d'eau gratuite. Et ça, ah oui, il y a même d'autres industries qui exploitent cette cette eau gratuite, qu'ils le mettent en œuvre, qu'ils le vendent plus cher. Et cette eau est venue au niveau du source. Et tu sais.
Oui.
L'importance de l'eau, bon, vraiment, c'est quelque chose de très universel. C'est quelque chose, un don de Dieu. Et parfois, il faut voir, il y a de l'eau qui vient en haut, il y a d'autres qui viennent sur le sol, et il y a d'autres qui viennent sur la mer. On est suffisamment gâté sur l'eau.
J'aime beaucoup les fontaines.
Tu vois les fontaines.
Ouais.
Et les fontaines, je parle pour que ça soit africain et européen, il faut sauvegarder les fontaines.
Ouais.
Il faut sauvegarder les fontaines parce que les fontaines, il faut les transformer en une sorte de monument parce que c'est une source naturelle.
Oui. Les cascades aussi.
Ah voilà, les cascades. Parce que même ici à Dakar, il y a d'autres maisons, ils ont des puits là-bas. Il y a des puits là-bas, il y a des...
Il y a des cascades.
Ah voilà, il y a des cascades. Oui, oui. Tu sais, ce que je dis, dans la vie maintenant, comme on a tout, on ne manque rien, on a suffisamment de l'eau, mais on exploite l'eau. Parce que si tu vois les pays sous-développés, ils ont assez de pluie, l'eau de pluie, mais ils n'arrivent pas à conserver l'eau de pluie. S'ils pouvaient conserver l'eau de pluie, ils peuvent travailler 12 sur 12 sur le champ.
Oui.
Ah, tu vois, avec les bassins là, qu'on fait, les bassins artificiels là, et c'est important pour récupérer l'eau et cultiver avec. C'est intéressant parce que si on a assez d'eau dans le monde et chaque pays, chaque maison, on est suffisamment en bonne santé.
C'est ça. J'ai une question parce que je ne sais pas. En Sénégal, l'eau, c'est contrôlé par qui? Par l'État ou par une entreprise privée? Comment ça marche là?
Tu sais, ici au Sénégal, l'eau des robinets s'est confiée par des entreprises sur des demandes qu'on fait pour toutes les entreprises. C'est contrôlé par une entreprise qui est Seno. Et soit, maintenant, cette entreprise, autant c'était des entreprises françaises, maintenant c'est des entreprises sénégalaises.
Ok. Mais c'est pas l'État alors.
Oui, c'est pas l'État. Mais tu sais, une moitié est pour l'État. C'est l'État qui contrôle tout ça.
Ok.
C'est l'État qui contrôle. Maintenant, l'État aussi a un programme pour les bassins, pour les agriculteurs. Et ils font des bassins dans les villages, dans les communes. Okay. Ils récupèrent de l'eau du puits. Et ils ont leur programme aussi, ils ont un programme qui va faire l'autoroute de l'eau.
Ok.
Une autoroute de l'eau qui va récupérer toute l'eau, l'eau de la pluie et beaucoup d'eau. Ils vont faire une autoroute de l'eau qui va jusqu'à dans des kilomètres des régions.
Ok.
Parce qu'ils vont récupérer l'eau pour enrichir l'eau, pour pouvoir donner l'avantage aux cultivateurs de plus cultiver 12 sur 12, par exemple, parce qu'ils vont avoir une autosuffisance d'eau. C'est ça leur politique ici au Sénégal.
Wow. Ok, c'est bien. Mais il n'y a pas encore de fontaines.
Si, il y a des fontaines, il y a des anciennes fontaines qui font dans les années 40 jusqu'à présent, qui vivent jusqu'à présent. Il y a des fontaines artificielles aussi. Mais comme aussi avant l'indépendance, il y avait des fontaines à Dakar, partout dans les maisons. Il y a d'autres qui ont enterré ces fontaines, mais il y a d'autres qui ont laissé ces fontaines. marché jusqu'à présent, il y a de l'eau jusqu'à présent. Et tu sais, parce que eux, ils ont préféré garder la fontaine. Parce que c'est un souvenir pour eux. C'est un souvenir pour eux parce que c'est leurs grands-grands-grands-pères qui ont fait ça. Et ils vont laisser ça pour aussi un souvenir parce que à Dakar, parce qu'il ne faut pas baser aussi sur l'eau de l'industriel. Mais parfois aussi, ils ont des pannes. Et soit, ils ont des pannes. S'ils ont des pannes de 2 jours, ils ne peuvent pas rester 2 jours sans manger. C'est pour cela qu'il faut réserver les anciens puits là pour pouvoir bénéficier de la vie et beaucoup de choses parce que c'est quelque chose qui est fait par les anciens. Et l'eau aussi, c'est l'eau de source et il faut respecter l'eau. Parce que tu sais, un village, pour bâtir un village, il faut de l'eau. Avant tout, pour cultiver, il faut de l'eau. Pour s'installer, pour dire que je vais faire un village et je vais faire des kilomètres et des kilomètres sans eau, et tu sais, il y a des risques. C'est pour cela l'eau. Et puis, Tamit, en matière médicale, l'eau soigne. L'eau soigne beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies. L'eau soigne la vieillesse parce que chaque matin, tu bois presque 1 litre d'eau chaque matin. Ça diminue la vieillesse et ça éclaircit la peau et ça donne beaucoup de santé. En matière de santé, l'eau est principale parce que l'eau seule, c'est quelque chose qui est très bien pour la santé. Très bien pour la santé. C'est pour cela que les médecins recommandent beaucoup à toute personne de boire beaucoup d'eau. Maintenant, je vois que l'importance de l'eau, il faut qu'on respecte l'eau. On essaie même de s'approprier de l'eau, de ne pas laisser l'eau couler sur la terre, de récupérer l'eau, de le mettre en œuvre. c'est difficile, quoi. C'est difficile de dire bien. On a suffisamment intelligent.
Ik zie, het gesprek hangt even. Patapoes Serieuze Radio Teranga op het moment bezig. Maar Lamine hebben we even niet. Mamadou Lamine. Ja, toch, you're back. Tu étais disparu. Mais... Maar terug. Hallo. Teranga.
Radio Teranga.
Radio Teranga, Bafao.
Bafao.
Bafao. Et Tafa, il n'est pas rentré?
Non. C'est bizarre, hein?
Oui, tu sais, ici, il y a le problème de climat, là.
Ah oui, c'est la pluie. Eh, c'est l'eau, oui. Oui.
Ah okay. Oui. Okay. Bon. Et j'ai vu, vous avez commencé le baba.
Oui, je viens de parler avec Momar. Et il a fait des progrès. Il a presque terminé le tronc. Et maintenant, il coupe les feuilles d'acier pour les feuilles. Et il a construit une porte pour qu'on puisse entrer dans le baba. Et puis, okay. Quand on est petit, comme enfant, on peut escalader dans le baobab aussi, à nous. Et c'est beau. Ah, hein? Oui, oui.
OK. Et quelqu'un qui rentre, il va être confortable là-bas, quoi?
Je ne sais pas, il faut se débrouiller.
j'ai vu la taille du baobab. Je pense que 5 personnes peuvent rentrer là-bas.
Ah, il faut être plus grand, je crois. Le tronc, c'est 4 mètres. Ça suffit pour donc 4 personnes.
et puis, bon, c'est intéressant pour les enfants aussi.
Oui.
Les enfants aussi aiment beaucoup ce genre de choses. Pour prendre des photos, aller faire beaucoup de choses. Il y aura de l'animation avec la porte.
Oui, tout ça. Oui, TikTok.
La porte, ça signifie quoi? C'est la porte de rentrée sans retour.
Oui, c'est possible. Oui, c'est une porte pour rentrer sans retour. Oui, c'est pour les morts aussi. Hein?
Ah oui, parce que il faut que la porte va avoir une signification symbolique pour les morts, parce qu'ils sont rentrés sur et c'est une bonne idée, hein, la porte. Vraiment, la porte, c'est une bonne idée.
Yeah.
Ah oui, c'est une bonne idée. Ça montre les fers, les prisons. Il y a la prison aussi. Si tu rentres, tu es dans une prison, si, tu vois, il y a l'esprit qui s'exprime, quoi.
Ouais.
Oui, il y a l'esprit qui s'exprime, oui, dans l'œuvre, quoi. Ouais. Et c'est important, c'est très important, tellement important.
Oui, ça fait plaisir pour lui, pour moi aussi, pour tout le monde. C'est...
Ah oui. Non, pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai vu Sarah l'a partagé sur l'image avec le groupe. Là, beaucoup de personnes ont apprécié vraiment. Avec Diva aussi. Diva aussi a apprécié le travail. Ce matin, on parle dessus.
Ça va être merveilleux, je suis sûr.
Très merveilleux. Et le tableau aussi, tu vas l'encadrer et tu vas le mettre là-bas.
Il va être encadré sur une stellage de fer d'échafaud, je crois.
Ce sera en vitre?
Non. C'est pour les performances seulement. C'est dehors. Donc c'est temporaire. Et après, on va le conserver pour montrer un autre jour dans une manifestation, une exposition, ça dépend, c'est pas sûr encore.
Ouais. Est-ce que on peut pas, tu as envisagé un musée sur l'incendie, ou bien un expo sur l'incendie? C'est important.
Oui, c'est possible.
Et Sarah avait beaucoup de tableaux ici. Il peut avoir d'autres artistes aussi, d'autres artisans aussi qui sont.
C'est toujours une histoire. Oui, c'est connecté. C'est vrai.
Oui, parce qu'avec le programme là, il faut intégrer beaucoup de programmes dessus, quoi, parce que il y a tellement de langage, il y a tellement de choses, vraiment, c'est triste.
Ouais.
Triste, vraiment, c'est un combat, quoi. C'est un combat noble. Et vraiment, c'est un combat qui est humain. Et c'est un combat aussi qui est valable pour tout le monde, parce que on ne sait pas demain ce qui peut arriver, parce que c'est l'injustice. C'est une chose qu'il faut combattre, parce que la vie aussi, il faut combattre toujours l'injustice. Wow,
ce qui manquait dans l'incendie, c'était l'eau. Il n'y avait pas de l'eau.
Il n'y avait pas de l'eau.
Ouais. Les sapeurs-pompiers sont arrivés trop tard. Ils n'ont pas trouvé les chemins. C'était bizarre.
Non, tu sais, l'eau, nous, on n'a pas créé l'eau. C'est Dieu qui a créé l'eau. Nous, notre devoir, c'est sauvegarder l'eau, approprier de l'eau et enrichir de l'eau, et c'est industrier l'eau. Et c'est ça, nous, notre devoir. Mais l'eau est universelle, parce que l'eau, nous, on n'a pas créé l'eau. Tu vois que vous, chez vous, là-bas, vous avez beaucoup d'eau, sur l'eau des glaces. Et ça.
Ouais.
Vous avez beaucoup de l'eau des glaces. Dieu nous a offert beaucoup de choses. Il nous a donné de l'eau pour qu'on puisse survivre, pour qu'on puisse transformer. On peut faire beaucoup de choses sur l'eau. Et toi, parce que c'est pas seulement gratuit, tu sais. parfois il fait chaud, il amène l'eau qui est froid, tu sais. Qui a besoin de l'eau, de froid, mais tu sais. Et l'eau aussi a une force mystique aussi. Une force mystique, parce que si tu vois mystique. L'eau, tu fais l'eau chaude dans un verre. Et soit, après, tu fais de l'eau froide et ça casse le verre. Uh-huh. Et soit, tu vois, l'eau s'exprime, tamit, il s'exprime beaucoup. S'exprime. Ouais. Et l'eau aussi, et c'est entre le feu et l'eau. Et si on choisit, parce que si le feu révolte, c'est l'eau qui vient, qui le dit de cette terre.
Oui, oui, c'est ça.
Ah, et tu vois, s'il n'y avait pas d'eau, hein, le feu sera, va se révolter.
Vapeur. Vapeur.
Ah?
Ça donne du vapeur.
Ah oui, ça donne du vapeur. Ça donne du vapeur. C'est pour moi, l'eau, c'est la source de la vie. Et l'eau, on peut pas, parce que, tu sais, ce que je dis un mot, on ignore l'eau. Parce que il faut tout faire pour sauvegarder l'eau, pour enrichir de l'eau, pour transformer l'eau, pour faire beaucoup de choses sur l'eau. Parce que le changement du climat là, ouais. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y aura pas beaucoup d'arbres.
Ouais, c'est ça, voilà. Mon frère, c'est ça.
Oui, parce que pour avoir beaucoup d'arbres, il faut de l'eau.
Ouais, oui, bien sûr.
Oui, parce que maintenant, il faut pour lutter pour le changement du climat, et si tu ignores l'eau, il faut approprier de l'eau.
Okay.
Pour les gens, plantent, pour les gens pouvoir planter, mourir, parce que sans cela, il va avoir une sécheresse totale, une sécheresse sur les corps humains. Parce que s'il n'y a pas d'eau, tu ne vas plus consommer de l'eau, tu ne vas plus cuisiner aussi.
C'est l'art de l'eau.
Voilà.
Oui, c'est aussi un art de l'eau. Oui.
Écoute, tout le monde, je suis vraiment allumé et je veux bien terminer la émission prochainement.
Voilà.
Donc, j'offre les derniers mots à quelqu'un qui veut dire quelque chose. Iemand nog een laatste woord?
Ja. Oui. Non. Bafau.
Bafau.
Wow.
Oké.
Raga Teraga.
Oui.
Teraga.
Salut à tout le monde.
Tout le monde. Santé à tout le monde. Et bon mercredi. Bonne santé à tout le monde.
Vive l'eau.
Vive l'eau, oui. Vive l'eau de source. Non.
À la prochaine. Ouais. Salut.
À la prochaine. Bafau. Merci.
Doui. Merci ciao.
Ciao, ciao. Nyofa.
Nou komt de eindtune.
Ja, klopt. Thank you very much. Merci. C'est la fini. Oh, ik ben Frans. Bedankt. Bye bye, zwaai zwaai.
Yo.
Ci iti yak ci MC nigga boy ci biti bem ci jox ma bit ma ray sa nday e rap mi dox fokk yak sa rap mi dox ma ki la bob su bay sa ndel wi lay rong mi dox.
We gaan nog even luisteren naar kijk op de oorlog.
Boy ngane lan boy ndelo ken ngay waxal non aba show bi wala
ay non du mom way
waxat lo waxat
dus dat komt
ma ki la bob su bay sa ndel wi lay rong mi dox.
Guido van Leeput met kijk op de oorlog.
Mom la wala kat waxat
ngane ci bem sa yam gëna xam way
ngane delu kat.
Man kill a bob so by as and they'll be like wrong me dog. Sorry l'officier.
Mijn kijk op de oorlog in Oekraïne op 4 oktober 2025. Is de stap van drone stress naar onderhandelingen mogelijk? De vage hoop is helemaal weg dat er via onderhandelingen gewerkt kon worden aan het eind van de oorlog. Inmiddels zijn de VS dringend verzocht om Oekraïne militair te helpen. Misschien doen ze dat, maar het is niet zeker. Over het plan van een groep bereidwillige Europese landen om een vredesplan te gaan beveiligen, is niets meer vernomen. Rusland is mordicus tegen. Hoogstwaarschijnlijk was het Rusland dat 9 september een aantal drones Polen instuurde om de reactie van het NAVO te testen. En sindsdien is Europa in toenemende mate getroffen door drone stress. Zijn het echte Russische drones? Of misschien geen Russische, maar toch wel echte drones? Of luchtballonnen? Deze zaken beheersen nu het nieuws. De oplossing wordt gezocht in bewapening en nieuwe technologie. Wat helemaal buiten beeld is verdwenen, zijn onderhandelingen. En opvallend is dat de EU nog steeds geen enkel idee heeft gevormd om door middel van onderhandelingen een einde aan de oorlog te helpen maken. We zwemmen steeds verder de oorlogsfuik in. De oorlog is weer in een escalatiespiraal gekomen. En hoe daaruit te geraken. En dat brengt me op de volgende punten. De militaire situatie. Amerikaanse houding tegenover Oekraïne. Verstrengeling van de EU en Oekraïne. Drone stress en een losser westers bondgenootschap. Geheime oorlogvoering. Machtsstrijd in de EU. Een binnenlandse vijand in de VS en de druk op de Amerikaanse legerleiding en onderhandelen. De militaire situatie aan het front. De situatie aan het front beweegt een klein beetje. De afgelopen maand, september, heeft Rusland 447 vierkante kilometer grondgebied in Oekraïne veroverd. En dat is minder dan bijvoorbeeld in juli. Toen was het 634 vierkante kilometer. De opmars gaat erg langzaam. De bombardementen met drones, raketten en vliegtuigen gaan door in enorme hoeveelheden. En volgens het Oekraïns opperbevel zijn er in september 6900 drones op Oekraïne afgevuurd. Waaronder 3600 van het type Shahed uit Iran. Daarbij slaagt Rusland erin om de Oekraïnse luchtafweer te omzeilen door technologische aanpassingen te doen aan de modernste raket. Dat heeft ertoe geleid dat Oekraïnse wapenfabrieken zijn geraakt. Ook de elektriciteitsproductie wordt zodanig hard getroffen dat sommige gebieden dagenlang verstoken zijn van stroom. De spanning loopt op rond de kerncentrales van Zaporizhia. De kerncentrales die door Rusland bezet zijn, worden niet meer gekoeld met noodbrandstof. Het IAEA, het Internationaal Atoomagentschap, doet een dringend beroep op de oorlogvoerende partijen de veiligheid van de centrales snel te garanderen. En dit machtsspel leidt aan het begin van de herfst tot de vraag hoe de energieproductie in Oekraïne op peil kan blijven. De Amerikaanse houding tegenover Oekraïne. De VS lijken nu onder bepaalde voorwaarden inlichtingen aan Oekraïne te willen geven om Russische brandstof, opslagplaatsen en munitiedepots aan te kunnen vallen. Het is een Oekraïnse strategie om het vermogen om oorlog voeren van Rusland aan te tasten. Deze werkwijze zal het terugwinnen van grondgebied niet bespoedigen, maar kan in theorie het Russische vermogen om oorlog te voeren verminderen. Of dat voldoende is voor een Russische nederlaag is zeer de vraag. Het zou de bereidheid van Rusland om te onderhandelen met minder strenge eisen wel kunnen bevorderen. Er is een geval bekendgemaakt waarbij het verschaffen van inlichtingen werd gegeven, plus de daarbij behorende toestemming voor het afvuren van een Oekraïnse artillerieraket. En die heeft veel overeenkomsten met een Amerikaanse HIMARS. Het doel was een elektriciteitscentrale in Belgorod, net over de grens in Rusland. Een echte omslag in het Amerikaanse beleid is het dus nog niet geweest. En daarnaast hebben de VS gemeld te overwegen om lange afstandskruisraketten van het type Tomahawk te leveren. En dat zou een ernstige escalatie zijn. En dat is op dit moment nog niet gebeurd. Of het zal gebeuren, is nog maar de vraag. Er zijn eigenlijk te weinig geschikte lanceerinrichtingen beschikbaar om aan Oekraïne te geven. Veiligheidsgaranties of veiligheidsassistentie. De discussie over het geruststellingsplan van Europese landen van 4 september is verder naar de achtergrond gedrongen. Oekraïne wil, voordat het een deal sluit met Rusland, veiligheidsgaranties van het Westen. Het lidmaatschap van de NAVO lijkt onmogelijk, maar iets wat er in de praktijk op lijkt wil Oekraïne heel graag. En wat zich aftekent is een verstrengeling tussen Oekraïne en Europese landen. Daarbij is de regering van Oekraïne leidend en initiërend. In de praktijk komt dat neer op de volgende zaken. Europese landen leveren onverminderd grote wapensystemen. de Europese wapenindustrie produceert voor Oekraïne en heeft plannen om zich te vestigen in Oekraïne. En tenslotte, Europese landen overwegen technologische wapens uit Oekraïne aan te schaffen. Er zijn nog veel meer vormen van verstrengeling, zoals de miljoenen Oekraïnse oorlogsvluchtelingen die in Europa werken. In de praktijk gaat het niet om veiligheidsgaranties, maar om vergaande veiligheidsassistentie. En Oekraïne wil daar steeds meer van. Drone stress en het losse westerse bondgenootschap. De afgelopen 3 weken is de NAVO op de proef gesteld. Dat gebeurde de eerste keer door drones die het luchtruim van Polen binnendrongen. Het tweede geval betrof 3 Russische straaljagers die het luchtruim van Estland boven de Oostzee zouden zijn binnengevlogen. En tenslotte waren er de raadselachtige drones boven de vliegvelden van Kopenhagen en Oslo. Alle gevallen leiden in de publieke opinie tot een geweldig tumult en er worden inmiddels overal drones waargenomen. Er is zonder meer sprake van drone stress. De kwestie met de Russische toestellen die in het luchtruim van Estland boven de Oostzee vlogen blijkt toch wat anders te liggen dan werd beweerd. De Finse golf is zo smal dat er geen 12-mijlszone, maar een 3-mijlszone geldt. Dat is al jarenlang praktijk en vooral van belang voor de scheepvaart. Zonder die afspraak zouden bijvoorbeeld Finse schepen Helsinki niet zomaar kunnen bereiken of Russische schepen naar Sint-Petersburg kunnen varen zonder over de zeegrens van de buurlanden te varen. 3 Russische militaire vliegtuigen die op weg waren naar het Russisch grondgebied van de exclave Kaliningrad zijn de 3-mijls grens van het Estse luchtruim niet overgevlogen, maar een 12-mijlszone wel, als die officieel zou bestaan. De reden is dat Estland de overeengekomen 3-mijls uitzonderingspositie in dit geval niet erkent. En daarom riep Estland een NAVO-vergadering op basis van artikel 4-1. En dat was een belangrijk geval van stress. Straaljagersstress in dit geval, dat tot tal van bewapeningsplannen leidde. Geheime oorlogvoering. Naast algemene bekendheid voor geheime of hybride oorlogvoering gaat het laatste paniekprobleem over de raadselachtige drones die boven Kopenhagen en Oslo zijn gezien, maar waarvan de herkomst niet bekend is. En hoewel er geen bewijs is, gaat de Deense regering uit van Russische afkomst. En daarvoor worden niet zozeer drones vanaf het Russisch vasteland aangemerkt, maar drones vanaf schepen die langs Denemarken en Noorwegen varen. En deze schepen behoren tot wat de schaduwvloot wordt genoemd. En dat is een vloot van honderden koopvaardijschepen die producten onder valse voorwendselen uitvoeren uit Rusland om zo de sancties te ontduiken. Er is geen bewijs van het gebruik van deze schepen voor dronevluchten, maar wel een zware verdenking. En Frankrijk heeft de kapitein van zijn schip gearresteerd toen het een Franse haven aandeed. Een rechtstreekse beschuldiging van het afschieten van drones boven Denemarken vanaf dit schip is nog niet gepresenteerd. Ook hier is de suggestie genoeg om tot de verzenuwde politieke opinie te komen. Machtsstrijd in de EU. Deze incidenten leiden naast oorlogsdreiging ook tot nieuwe onderlinge spanningen tussen de leden van zowel de EU als de NAVO. De NAVO in de personen van Mark Rutte, de secretaris-generaal, en Alexis Grinkiewicz, de militaire commandant van de NAVO in Europa, SACEUR, bepleiten in de kern terughoudendheid en onderzoek. Het onderzoek naar het binnendringen van de drones in Polen is nog niet afgerond. De andere incidenten werden aanleiding voor een publicitair offensief van de EU-voorzitter von der Leyen om de bouw van een dronemuur te bepleiten. Dat is een systeem langs de oostgrens van de NAVO waarbij drones het luchtruim vrij waren van Russische drones, raketten of vliegtuigen. De afgelopen week was er een informeel overleg van de EU in Kopenhagen waarbij over de dronemuur werd gesproken. Er zijn nog meer van dit soort militair technologische renovaties in de planning. Naast de dronemuur gaat het om plannen voor luchtafweer tegen drones, luchtafweer tegen vliegtuigen en raketten en de verdediging tegen hybride oorlogsvoering en verdediging in de ruimte. Het was een verkennend en informeel overleg en de vergadering heeft niet tot een beslissing geleid. De dronemuur komt er niet of nog niet. Op 15 oktober is de formele vergadering. En met deze berichten lijkt het niet erg waarschijnlijk dat er alsnog een gezamenlijke positieve beslissing wordt genomen. De zuidelijke landen hebben geen zin mee te betalen voor de noordoostelijke landen. En Macron van Frankrijk heeft andere voorstellen en vindt eigenlijk ook dat Ursula von der Leyen zich er maar beter niet mee kan bemoeien. Daarmee is het de discussie over drones, waar de kranten opgewonden over doen, gestuit op interne machtspolitiek onder Europese leiders. De binnenlandse vijand in de VS en de druk van de regering op de legerleiding. Een ogenschijnlijk aparte ontwikkeling in het verhaal van de onderlinge westerse verhoudingen is de druk die de Amerikaanse regering begint uit te oefenen op de eigen legerleiding. Die druk bestaat uit verschillende elementen. Het afstand nemen van internationaal humanitair recht, dat is het recht in de oorlog. Ook oorlogvoerende militairen moeten zich immers aan regels houden. Bij afzonderlijke oorlogen worden die regels apart vastgelegd in Rules of Engagement. En die regels moeten passen in de conventies van Genève en andere bepalingen van het recht in de oorlog. De Amerikaanse minister van Oorlog, Hegseth, heeft nu gezegd daar afstand van te willen nemen. Het tweede element is dat emancipatorische maatschappelijke tendensen niet langer in het leger welkom zijn. Dus, de rol van transseksuelen, vrouwen en zwarten wordt minder belangrijk. En dit reactionaire beleid is een vorm van disciplinering van de krijgsmacht. Dat valt samen met het voornemen om het leger tegen de eigen bevolking in te zetten. Daaronder natuurlijk ook veel zwarte, vrouwen en groepen die zich willen emanciperen. De binnenlandse vijand, zoals Trump het zelf noemde. De krijgsmacht heeft zich in een normale democratische rechtsstaat geen binnenlandse taak. Het leger is alleen voor buitenlandse vijanden. Het is de vraag of er zuiveringen in de officiersrangen zullen plaats hebben in de komende tijd, of dat de legerleiding zich zal verzetten tegen de oneigenlijke inzet tegen de eigen bevolking. Als de gehele legerleiding het niet doet, zijn er dan misschien delen van de hoge officieren. Een andere uitdrukking van het dodelijke willen optreden werd bewezen in het zonder nader aankondiging bombarderen van een motorboot in de Caribische Zee. Het zouden drugsmokkelaars zijn geweest en die werden buitenrechtelijk geëxecuteerd. Dat is inmiddels nog een paar keer gebeurd. De Amerikaanse regering wil meer prioriteit geven aan het Amerikaanse continent. En daarvoor is een discussie gaande op het ministerie van Oorlog en met de top van de legerleiding. Maar deze discussie speelt al weken. Moeten de VS zich blijven richten op het buitenland, op Europa en op Azië bijvoorbeeld? In dat kader is ook bezuinigd op veiligheidsfondsen voor Europese grensstaten van Rusland. Het zijn deze ontwikkelingen die de spanningen in de NAVO eerder groter maken dan kleiner en waarvan het effect op de oorlog in Oekraïne nog onduidelijk is. Ten slotte, onderhandelen. De afgelopen 10 dagen stonden in het teken van verwarring over de oorlog in Oekraïne. De politieke en militaire opstelling van de VS ten opzichte van dat land en de onmacht in de EU en ook de NAVO. En daarmee lijken de diepere bedoelingen van Rusland om politieke barsten in de NAVO te vergroten dichterbij te komen. Dat vergroot de veiligheid voor de bevolking van Oekraïne en de rest van Europa in het geheel niet. Het woord onderhandelen is me de laatste 10 dagen maar 1 keer opgevallen. Voor het eerst in 3 jaar pleit een hoge Nederlandse officier openlijk voor onderhandelingen. Generaal buitendienst Kees Matthijssen stelt dat de NAVO er verstandig aan zou doen het gesprek met Rusland aan te gaan. Over elkaar praten en naar elkaar wijzen vergroot het risico op escalatie, stelt Matthijs. De aanleiding voor dit pleidooi was het rumoer over de Russische straaljagers in het luchtruim van Estland. Het blijft opvallend dat er geen enkele Europese leider is die een plan opstelt om de spanningen die nu optreden te doen verminderen en een einde aan de oorlog in Oekraïne te bespoedigen. In de aanloop tot de Tweede Kamerverkiezing is dat een noodzakelijk bespreekpunt. Het is hoog tijd. Tot de volgende update op 14 oktober.
Greetings, welcome to episode 157 of Active Listening. I'm your host, Stelio. We're going to start off this week with a track by Yellow. This is You Gotta Say Yes to Another Excess.
We want it, we feel it, we get it. Excess.